Vous avez remarqué comment Saint Matthieu, dans cette finale que nous venons d'entendre, ne masque pas un certain nombre de difficultés des disciples à croire en Jésus ressuscité. Il nous dit qu'au dernier moment, alors que Jésus allait disparaître, s'évanouir dans la nuée, ils se prosternèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes, quelques-uns doutèrent. Ça peut mettre à l'aise peut-être certains d'entre nous qui ont des difficultés de foi, je ne sais pas. Mais voilà, jusqu'au dernier moment, quelques-uns des disciples avaient quelques doutes au sujet de la résurrection de Jésus. Vous savez, ils étaient un peu difficiles à remuer. Quand on lit le commencement du livre des Actes des Apôtres qu'on a entendu en première lecture, on voit comment... Alors qu'ils sont en présence de Jésus ressuscité, ce qui tout de même n'était pas rien, j'imagine que Jésus ressuscité avait une sorte de rayonnement particulier qui fait qu'il était à la fois le même et différent de celui qu'il était avant sa passion. Donc ce n'était pas rien comme expérience d'être en présence de Jésus ressuscité. Et nous disent les Actes des Apôtres de manger avec Jésus au cours d'un repas qu'il partageait avec eux. Il leur dit un certain nombre de choses et bizarrement, les disciples vont poser la question: « Seigneur, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Ils sont toujours, n'est-ce pas, dans leur idée que Jésus va se manifester comme un homme politique puissant qui va établir son empire en Israël et dominé sur le monde entier. Voilà, ils sont toujours dans ce schéma. Ils n'arrivent pas à en sortir. Et Jésus a eu beau leur expliquer que non, c'est pas la question, il n'est pas venu pour cela. Jésus a eu beau faire des déclarations devant Ponce Pilate que son royaume n'est pas de ce monde-ci. Les disciples sont toujours dans cette idée. Ça leur trotte dans la tête, comme on dit, et ils n'arrivent pas à s'en défaire. Alors, on voit bien qu'il leur manque quelque chose, au fond. Il leur manque quelque chose pour pouvoir vraiment aller plus loin et suivre Jésus, cette fois-ci, dans ce passage vers la résurrection et vers la gloire. Il leur manque quelqu'un. Dire qu'il leur manque quelque chose, c'est encore un peu court. Il manque quelqu'un, il manque l'Esprit Saint. Et Jésus va à la question qu'il pose, est-ce que c'est maintenant, etc. Jésus leur dit, arrêtez vos curiosités malsaines, il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates. Voilà, c'est bon à entendre, parce que même parmi nous aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent arriver à savoir quand est-ce que va se trouver la fin du monde, n'est-ce pas? L'autre jour avec un groupe de jeunes, j'avais... Monsieur, c'est en 2012, et... on est toujours dans cette configuration où on pense qu'il y a des mysticos, des gens un peu curieux qui ont des révélations d'en haut qui permettent d'avoir une approche un peu plus fine, n'est-ce pas, de la date qui, que quoi, enfin non, laissons tomber tout cela. Jésus dit, il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates. Donc toutes les révélations privées qui prétendent vous donner des lumières à ce sujet, vous pouvez les prendre et les mettre à la poubelle, parce que ça n'a aucun intérêt. Nous devons rester dans l'ignorance de ces choses, et nous devons vivre vraiment dans un acte de foi en la sagesse de Dieu. Il sait ce qu'il fait, il sait comment il conduit toutes choses. Saint Paul, dans le passage de la lettre aux Éphésiens que vous avez entendu, insiste pour dire que Jésus est Seigneur. Le Père lui a tout remis, tout lui a été soumis, toutes les puissances, principautés, dominations. La façon dont Saint Paul se représente le monde angélique, il dit que le Père l'a établi au-dessus de toutes les puissances de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Voilà, Christ est Seigneur, Jésus est Seigneur, et donc Dieu sait ce qu'il fait, Dieu conduit toutes choses et nous avons à nous en remettre à la sagesse de Dieu avec foi, avec abandon, avec confiance, sans toutefois négliger notre esprit critique, c'est normal d'en avoir, mais avec confiance. Enfin voilà, il manquait quelqu'un aux disciples et c'était la personne du Saint-Esprit. Et Jésus leur dit carrément, il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates, mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Voilà. Nous avons toujours cette idée que les disciples avaient plus de chance que nous parce qu'ils avaient côtoyé Jésus, ils l'avaient vu, ils avaient parlé avec lui, ils avaient eu son apparition de résurrection. Eh bien non, non. On voit que jusqu'au dernier moment, ils pataugent encore et ils sont dans des schémas dépassés et périmés. Et Jésus leur dit, il faut que vous soyez renouvelés par la présence du Saint-Esprit qui viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Alors seulement. Et il leur dit de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à temps qu'ils fassent l'expérience de ce renouvellement dans l'Esprit Saint. Je crois qu'il faut que nous regardions cela parce que, voilà, c'est important. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est la fête de l'Ascension. Nous fêtons le passage de Jésus, l'exaltation de Jésus dans la gloire au terme de sa résurrection, qui dans les évangiles nous est présenté comme un processus progressif au fond. Jésus ressuscite au jour de Pâques, et dès le soir de Pâques dans Saint Jean, il promet le Saint-Esprit, c'est déjà la Pentecôte, il souffla sur eux et leur dit recevez l'Esprit Saint. Et puis cependant, Saint Luc nous décrit ce processus comme progressif sur 40 jours, et même 50 pour la Pentecôte. Mais j'allais dire peu importe, l'important, c'est que nous voyions bien qu'on ne peut pas être chrétien sans une forte expérience du Saint-Esprit. On ne peut pas être témoin de Jésus, sans une forte expérience du Saint-Esprit. Nous sommes chrétiens, vous et moi, nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés, confirmés, c'est sûr, sinon nous ne serions pas là ce matin. Mais sommes-nous témoins? Avons-nous la puissance du Saint-Esprit pour être témoins? C'est d'une certaine façon une question qu'il faut se poser, car Jésus le dit bien que les disciples avaient beau le connaître, avoir parlé avec lui, manger avec lui, etc., passer 3 ans avec lui, pour être témoin de sa résurrection, il fallait qu'il soit rempli du Saint-Esprit, il fallait qu'il reçoive l'Esprit-Saint de façon nouvelle. Je vous invite, pour terminer, pendant les 9 jours qui viennent, tiens, ça fait une neuvaine, c'est peut-être le principe de base des neuvaines, je n'en sais rien, essayez donc pendant 9 jours de demander au Seigneur Jésus de vous faire faire une expérience nouvelle du Saint-Esprit qui nous habite déjà par notre baptême, notre confirmation, mais que le Saint-Esprit se manifeste à nous de façon nouvelle. J'ai toujours été frappé personnellement dans le courant du renouveau charismatique en participant à des groupes de prière, à des grands rassemblements et à de toutes petites choses comme par exemple le fait de prier pour des gens pour qu'ils soient renouvelés dans le Saint-Esprit. J'ai toujours été frappé par le fait que se mettre à genoux au milieu de 2-3 personnes, dire tout simplement, Seigneur Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit, renouvelle-moi dans l'expérience du Saint-Esprit que j'ai déjà reçue. Saint-Esprit, équipe-moi de tous les dons dont j'ai besoin. Le fait que les quelques personnes qui sont là autour de nous prient avec nous. Tout cela se passe dans la foi et sans manifestation particulière en principe. J'ai toujours été frappé que cette prière avait des suites étonnante d'expérience nouvelle de la présence du Saint-Esprit. N'hésitez pas à le demander, n'hésitez pas à prier les uns pour les autres pour cela, avec foi, dans la foi, sans manifestation, dans la sécheresse de la foi, voilà. Mais de demander, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de venir avec, vous savez, il y a des récipients de différentes formes. Il y en a quelquefois qui sont grands comme un dé à coudre. Ça existe encore, les dé à coudre, je ne sais pas trop. Oui, hein, ceux qui font de la couture savent bien ça. Il y en a qui viennent, n'est-ce pas, auprès de Dieu avec un dé à coudre. Bon, on va pouvoir remplir le dé à coudre jusqu'à ras-bord, c'est sûr. Mais enfin, vaut mieux venir avec des récipients un peu plus grands pour être pleinement béni et rempli par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vaut mieux ouvrir son cœur avec plus de largesse, de largeur, d'ouverture pour faire une expérience marquante. Et pas venir avec un petit verre à liqueur, non, voilà, venez au moins avec un verre à pastis. Ouvrons-nous au Saint-Esprit, pour qu'il puisse vraiment agir en nous avec force. Et sachons qu'il y a encore beaucoup de richesses à expérimenter dans la présence du Saint-Esprit, beaucoup de dons, de charisme, de don que le Saint-Esprit peut déployer en nous pour toutes circonstances de notre vie de chaque jour. Que les 9 jours qui nous préparent à la Pentecôte puissent être utilisés par chacun de nous dans notre prière personnelle pour demander à être régénérés dans la présence du Saint-Esprit.